Deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains. Paul nous dit, nous avertit que le salut est plus près de nous, à l'heure où nous avons cru en Jésus-Christ. L'évangile selon Saint Matthieu nous invite à veiller pour être prêts à cet avènement. Pour approcher ces trois lectures, puisqu'elles sont difficiles à comprendre, je ne suis pas parvenu moi-même, je me suis organisé de la manière suivante. Je vais d'abord situer le texte de l'Évangile. En le situant, j'essaie de le mettre en rapport avec la dernière venue du Fils de l'homme. Pourquoi je procède ainsi? Puisque le texte que nous venons d'écouter est tiré dans l'ensemble du chapitre 24 qui nous parle de la destruction du temple et aussi des derniers jours. La venue du Seigneur au dernier jour. Et puisque ce texte est dans le milieu du texte, pour le comprendre, donc il faut partir de ce qui précède. Voilà pourquoi je me suis dit, je le situe d'abord en le mettant en lien avec l'ensemble du texte du chapitre 24. Et deuxièmement, je vais essayer d'indiquer les circonstances de cette venue. Du Seigneur. Et au troisième moment, donc en dernier, je vais essayer de le dégager en nous interpellant l'attitude qui peut être la nôtre aujourd'hui. Donc, je passe au premier point. La situation du texte et son rapport avec la venue des biens du Fils de l'homme. Dans ce chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu, il est question de l'annonce de la destruction du temple et de l'avènement du Fils de l'homme. Cette partie qui nous intéresse est encadrée par le récit sur la dernière venue du Fils de l'homme et la parabole du serviteur. Dans les deux parties, Jésus nous invite et nous exhorte à la vigilance et à la persévérance. L'ensemble du texte, chapitre 24. On remarque dans ce texte que, après plusieurs avertissements sur le fait qu'au sujet des avenues, nous ne pouvons savoir grand-chose, et pas plus que les communs des mortels. Malgré l'indication selon laquelle le vautour ne se rassembleront que là où sera le cadavre, cela en écho à l'action de l'aigle qui, de loin, peut percevoir la proie qu'il tue, et autour de cette proie, il place ses petits pour laver le sang du cadavre, pour les bien tuer. Cela implique que la venue du Fils de l'homme sera visible par tous et que personne n'échappera à son jugement. Malgré cela, malgré ces indications par lesquelles Jésus tente de montrer qu'il ne s'agit pas de donner des indications physiques, historico-sociaux, pour dire à tel moment, tel jour, telle période, telle heure, l'avènement du Fils de l'homme aura lieu, malgré ces indications, les disciples demandent encore des signes particuliers. Peut-être ils avaient leur raison, peut-être ils voulaient devenir des spécialistes de l'eschatologie, comme aujourd'hui, chacun veut être spécialiste de quelque chose, ou il veut que lorsqu'il parle, que sa parole ait autorité. Et aussi disent ce que nous vous disons. selon saint Matthieu, peut laisser dire que Jésus les renvoie ses disciples à leur capacité à considérer les aléas de l'histoire humaine et à constater que cette histoire ne fait que répéter l'attente du jugement et de la délivrance qui est déjà proche. Rappelons-nous aussi la parole de Jésus lui-même qui revient, qui prévient ses disciples au sujet de la manifestation dernière du Fils de l'homme quand il viendra dans sa gloire. Jésus dit ceci: cette génération ne passera pas que tout sera naïf. Ce verset, je dois vous l'avouer, je n'ai pas compris tout de suite. Il m'a donc paru difficile. Et pour tenter de comprendre ce verset, je me suis posé des questions. Puisqu'il parle de cette génération et dit tout cela, nous pouvons alors nous demander quelle est cette génération? Et aussi, la deuxième question, que signifie tout cela? À quoi renvoie tout cela? On peut dire que tout cela peut bien renvoyer à l'ensemble des signes précurseurs et à l'avènement même du Fils de l'homme. Tout ce qui est arrivé et tout ce qui va arriver. Tout cela. C'est comme si Jésus présentait, connaissant l'histoire, il présentait toute la période qui va de la destruction du temple de Jérusalem en 70 jusqu'au retour même, il présente cela comme si c'était une période de détresse. Ou bien on peut dire que Jésus rapproche deux périodes de détresse, de misère. Cette période qui va alors entre 70 et l'arrivée du Fils de l'homme. Ou encore, nous pouvons dire que Jésus continue à parler de ce grand événement qui a marqué le Fils d'Israël, la destruction du temple, il dit tout cela, tout cela. Alors, le terme « cette génération » peut se référer aux auditeurs de Jésus et aussi à tous ceux qui accueilleront cette bonne nouvelle à la suite de la prédication ultérieure. Cette génération de passage. Donc la prédication des apôtres, mais aussi la prédication de l'Église aujourd'hui. Ainsi, étant donné que le mot « génération » revient plusieurs fois chez Matthieu, il peut aussi signifier que tout auditeur ou tout lecteur de l'Évangile devient contemporain de Jésus. Et il est désormais considéré, concerné par la nécessité d'une lucidité critique sur le monde qui l'entoure. Il doit, dans le même mouvement, ne pas se laisser séduire par des faux signes de la parousie, de la fin des temps, et cependant ne pas cesser d'attendre dans une attitude de veille. La deuxième partie de mon propos, je disais, ça concerne les circonstances de cette parousie. Et nous attendons, et nous devons attendre dans une attitude. Avant de décrire les circonstances, Jésus ajoute ceci. Quand il a dit cette parole, cette génération ne passera pas avant que cela n'arrive, et il ajoute, le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Si on lit, on peut aussi lire pareil, il dit au chapitre 5, toujours. De l'Évangile selon saint Matthieu, verset 18. Jésus disait ceci: avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur passera de la loi que tout ne soit réalisé. C'est comme si Jésus affirme la pérennité absolue de ses paroles. Cette déclaration est importante car elle révèle la supériorité des paroles du Christ par rapport à la loi, à la Torah. La loi durera jusque dans son moindre détail tant que le ciel et la terre seront en place. Les paroles de Jésus ne passeront pas, alors même que le ciel et la terre doivent passer. Pourtant, le Fils dont la parole ne passe pas, c'est-à-dire qui est au-delà du temps des hommes, il ne connaît ni le jour ni l'heure de la venue du Seigneur. C'est pourquoi il ne renseigne pas sur sa venue, c'est-à-dire sur la fin du ciel et de la terre. Sa parole étant d'une autre nature, elle sert à révéler un être qui est d'une autre nature, le Père Céleste. Ainsi, l'Évangile selon saint Matthieu prolonge le thème de la parousie en soulignant son caractère surprenant. L'exemple de Noé défend l'idée que la surprise sera d'autant plus forte que la vie des hommes ne se poursuivra normalement jusqu'au moment de l'avènement du Fils de l'homme. C'est alors qu'aura lieu le tri apparemment arbitraire. On dit qu'ils seront en train de travailler l'un et puis l'autre laissé. Ils seront dans le même lit, l'un puis l'autre laissé. Tu parles de quel critère, ce n'est pas dit. Le tri paraît arbitraire car il n'est donné aucune justification à ces jugements, si ce n'est le constat d'une séparation entre les uns et les autres. Et dans l'incertitude du jour de l'avènement du Seigneur, en vue du jugement dernier, le Seigneur dit qu'il faut agir à l'inverse du maître qui ne connaît pas le moment que choisit le voleur pour venir le dévaliser. Contrairement au maître qui ne sait pas veiller parce qu'il ne sait pas à quelle heure viendra le voleur, le disciple, le chrétien, le croyant que nous sommes invités à veiller justement parce que nous ignorons l'heure de la manifestation du Fils de l'homme. Et cette heure-là peut être proche, comme le dit saint Paul aux Romains. Le salut est proche, dit saint Paul aux Romains. L'urgence de la fin qui s'approche nécessite la conversion des cœurs et oblige de quitter les œuvres des ténèbres pour celles de la lumière. Il s'agit en effet d'abandonner un certain nombre de vices dont la jouissance donne l'illusion d'un éternel présent. Ils mangeaient, ils vivaient, ils se mariaient, ils étaient sans souci. De même que le déluge a emporté les hommes du temps de Moïse, de même ceux qui ne seront pas prêts lors de la venue du Fils de l'homme, c'est-à-dire ceux qui ne se seront pas préoccupés de la foi en Jésus-Christ, seront emportés par le jugement. Ainsi, les disciples qui cherchaient à savoir le jour de cette venue sont mis face à leur responsabilité. Car je dis au départ, il s'agissait de mettre les disciples devant la nécessité des aléas de l'histoire humaine. Ils retournent à eux-mêmes au lieu de chercher des signes ailleurs. Aux disciples, donc, nous espérons que ce déplacement était opéré de la façon dont ils envisageaient la venue. Il ne s'agit pas de le chercher à travers les événements géographiques, mais il s'agit d'aller le chercher en soi-même, d'où la préparation. Et cette venue, à partir de ce déplacement qui se serait réalisé dans l'heure cœur et dans leur tête, ils peuvent comprendre la grandeur de l'événement et l'effort à faire pour se préparer. Et alors, quelle est notre attitude aujourd'hui? Car nous aussi, comme les hommes du temps de Jésus, nous attendons le retour du Seigneur. En sachant qu'il est déjà venu par sa naissance, la manifestation, par l'incarnation, en sachant aussi qu'il vient tous les jours, car lui-même l'a dit. Nous venons à nous, viendrons à vous et nous ferons notre demain. Les images qui décrivent l'évangile, ces gens qui étaient en activité, qui mangeaient, qui vivaient, ces images décrivent les activités de la vie quotidienne. Comme nous aussi, nous avons des activités quotidiennes. On peut découvrir à travers ces images deux types de personnes. Toutes ces personnes travaillent et vivent normalement, mais l'une vit dans l'éveil de la foi, l'autre ne s'en préoccupe pas. C'est pourquoi il est laissé. Nous pensons en général que si nous étions informés du retour du Christ, ou du moins, si nous étions informés du moment de notre mort, nous vivrions différemment. Le Christ en doute et pense que l'incertitude est meilleure conseillère. L'incertitude est meilleure conseillère car c'est vivre constamment avec le Christ, avec son ami, et de ne pas savoir, de savoir jamais à quel moment précis il peut intervenir. Le véritable amoureux ou la véritable amoureuse le comprendra mieux, qui est toujours avec celle ou celui qu'il ou qu'elle aime, et qui se fait une joie qu'à tout moment il puisse venir sans savoir à quel instant. Nous, nous sommes des amoureux, des amoureuses sûres d'être aimés. Nous sommes sûrs d'être aimés par celui qui nous a aimés, sûrs d'être épousés par celui qui nous a épousés à travers l'Église, sûrs d'être un jour comblés car il nous l'a promis. Et celui qui oublierait son amour serait bien malheureux. Et celui qui se satisferait de l'absence de son amour serait bien à plaindre. Christ est cet ami qui vient sans nous aviser. Comme nous attendons la personne que nous aimons, nous n'avons pas besoin qu'il nous dise à quelle heure je viens. Et nous devons être, nous, non comme des craintifs qui ont peur d'être jugés, mais comme nous sommes les petits-enfants à l'approche de Noël, attendant les bienfaits du Père Noël, prétendant à la perspective du bonheur qui les attend. Donc, si Jésus évoque Noé et le déluge, qui a tout fait, le déluge qui a tout fait perdre à ceux qui ne l'ont pas vu venir, ce n'est pas pour nous terroriser à l'annonce des malheurs à venir. C'est pour secouer notre négligence. Tout ce que nous avons pu, tout ce que nous avons pu se perdre en un clin d'œil et d'œil. Tout peut partir d'un seul regard. Sauf savoir qu'on est aimé, l'amour du Seigneur ne passe pas. Il faut donc prévenir le malheur, toujours possible, en se détachant de ce qui nous attache comme les contemporains de Moïse et en s'attachant à ce qui nous rend libre. Alors, tout peut arriver, même Dieu peut arriver, le Seigneur peut advenir. Et s'il arrive, et comme il n'arrivera qu'à l'improviste, il nous trouve libre. S'il nous trouve libre, nous serons dans la joie, dans la rencontre des époux. Nous serons dans le bonheur total. Et puisque nous commençons le temps de l'Avent, parlons-en. En effet, comme le temps de l'avènement de notre Seigneur, on peut distinguer trois aspects par lesquels le Verbe de Dieu se manifeste ou s'est manifesté aux hommes. Le Verbe de Dieu s'est manifesté aux hommes dans la chair, l'incarnation, la naissance. Cette première venue est celle qui eut lieu dans la nuit, selon ses paroles de l'Évangile. Au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. Voici l'époux. Et ce premier avènement est déjà passé. Quand le Christ a été vu sur la terre, il a conversé avec les hommes, il leur a parlé de son Père. Le Christ se vient aussi tous les jours dans nos âmes. Et je veux dire là que nous sommes dans le deuxième avènement, pourvu toutefois que nous soyons tels qu'il puisse venir à nous. Car il a dit que si nous l'aimons, il viendra à nous et il fera sa demeure en nous. Ce deuxième avènement est pour nous un temps mêlé d'incertitude. Car quel autre que l'Esprit de Dieu connaît ceux qui sont à Dieu? Il faut s'apprêter, il faut être prêt, il faut se préparer, chasser toutes les œuvres de ténèbres. Ceux que le désir des choses célestes ravit hors de même, savent bien quand le Seigneur viendra. Cependant, ils ne savent pas d'où il vient, ni où il va. Le vent souffle, nous ne savons pas d'où il vient et d'où il va. Mais ce qui est certain, il viendra. Le Seigneur, et c'est la troisième venue, nous l'attendons quand il se manifestera dans sa gloire. Il est certain qu'il aura lieu cet avènement. Si nous ne pouvons pas connaître le jour ni l'heure, nous savons du moins qu'il viendra et il aura lieu. Au moment où l'on parlera de paix et de sécurité, dit le sage, c'est alors que soudain la mort apparaîtra comme des douleurs et l'enfantement au sein de la femme. Et nul ne pourra fuir, nul ne pourra échapper. Le premier avènement fut donc humble et caché. Né dans une mangeoire, négligeable, alors qu'il s'était fait l'agneau, il a été jugé par les hommes avec injustice. Le deuxième avènement est couvert de mystère, de l'incertitude. Il est plein d'amour. Pendant ce temps, le Christ est plein de tendresse et nous rend justice par sa grâce. Il vient à nous demeurer. Nous devons nous y préparer. Et le troisième avènement sera éclatant, indiscret, visible par tous, mais terrible. Le Christ, le lion de la tribu de Juda, jugera toutes choses avec équité. Ô Seigneur Jésus, notre cœur, notre chair soupire après ta venue. Ton jour est proche et nous ne pouvons pas nous lâcher de l'attendre. Nous voulons hâter ton avènement par le désir de notre cœur et ainsi l'anticiper de toutes les forces de notre être. Seigneur, ne laisse pas ce désir s'affadir, ni l'amour s'éteindre en nous, mais ranime sans cesse la flamme de nos âmes. Ranime sans cesse la flamme de ton amour en nos âmes. Que nous soyons toujours prêts à la rencontre du Christ. Garde nos cœurs éveillés afin que nous ne détournions pas de toi dans les recherches égoïstes et que nous ne sombrions pas dans l'indifférence. Que le Seigneur nous accorde de rester vigilants dans la foi et la prière, attentifs à la croissance de son royaume, et au rayonnement de son amour au milieu de nous, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos milieux.